Sir, do you believe that Vice President Kamala Harris is only on the ticket because she is a black woman?
Well, I can say no. I think it's maybe a little bit different. So I've known her a long time indirectly, not directly very much. And she was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black.
As many of you know, before I was elected vice president, I was an elected United States senator. Before that, I was an elected attorney general, and before that, an elected district attorney. And before that, I was a courtroom prosecutor. So I took on, in these roles, perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Scammers who broke the rules for personal gain. So Arizona. Hear me when I say, I know Donald Trump's type.
Après le retrait du président Joe Biden de la course à la Maison-Blanche, Donald Trump ne passe pas une journée sans attaquer frontalement sa nouvelle rivale, Kamala Harris, usant de divers surnoms insultants pour la qualifier. Kamala Harris est-elle le cauchemar de Donald Trump? La candidature de Kamala Harris rebat-elle les cartes de l'élection? Qui sont ces séduits par Donald Trump? Kamala Harris pourrait-elle faire trébucher Donald Trump? Présidentielle américaine 2024. Chaque dimanche, reportage, analyse avec les correspondants de France 24 et RFI sur CUT 89,5 FM, la radio au cœur des débats politiques, linguistiques et culturels.
Country. He saw division, tried to build a wall.
He made a few of his people wealthy. Oh, he don't care about the rest at all.
He's got convictions, he did the nasty and undermined the Constitution.
He's an oppressor of civil liberties, megalomaniac Republican.
Oh, give me hope, come on.
Safer than him with money. She'll try to regulate the sale of guns. She's bringing measures that offer
hope, not fear, access to healthcare and abortion.
We know the street with the neighbor's borders. We're trying to change an immigration. Don't want a president of the USA.
There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the Francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide. behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.purri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes, et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Potpourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmelade?
Pourquoi est-il important de célébrer le 25 septembre? Le 25 septembre, c'est l'anniversaire du premier drapeau franco-ontarien qui a eu lieu en 1975 à l'université de Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Mais c'est seulement en 2010 que le 25 septembre est devenu le jour des franco-ontariens et des franco-ontariennes. Tous les ans, ce jour reconnaît la contribution de la communauté francophone de l'Ontario à la vie culturelle, historique, sociale, économique et politique de la province. Le 25 septembre, c'est l'anniversaire du premier lever du drapeau franco-ontarien et jour des franco-ontariens et des franco-ontariennes. Avez-vous le goût à la fête? Connaissez-vous la petite histoire de l'Ontario français? Pourriez-vous me citer quelques têtes d'affiche de francophones engagés en Ontario français? Quels sont vos médias francophones préférés? Cas de surprise et billets ciné de Marcel Lynn, fondatrice de Ciné Franco, pour le festival du mois de novembre. Nous attendons vos réponses à potpourri@cut.fm. Découvrez les activités organisées à Toronto et dans votre région en consultant le site mondrapeaufranco.ca ou popurusho.com. Joyeuse journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. CUT 89,5 FM, nous sommes, nous serons.
Ok, Yeah, moi je suis T, ouais. Yeah, moi je suis quoi?
C'est le tourbillon des super filles du roi qui ont unifié le français ici au Canada. Je fais l'interprète comme Mathieu Dacosta, de Niagara à Matawa à Wawa.
Je saute sur le métro, je rêve tout haut, bien comme une tour bien enracinée. Je prends le train, go, je chante tout haut, je parle en français, chez nous en Ontario.
Et dans la gueule, c'est pas bon, yeah. Et quand on nous aide, c'est de la chute, c'est coloré ensemble, continuons le party.
Encore, ouais, c'est ça.
Et dans la gueule, c'est pas bon, yeah. Et quand on nous aide, c'est de la chute, c'est coloré ensemble, continuons le party.
Le bruit se laisse à plus longue rue du monde. Yeah. À mes oreilles, mes dialectes abondent. Des Premières Nations aux derniers arrivés. Je vis dans un monde plein de sonorités.
Comme Jim, ma office, un nous est belle. Ma langue, c'est le point de cette tour des Babel. Partout en Ontario, au pays d'en haut. Autour du monde, je monte toujours plus haut, yeah.
Tu tournes en l'air, je commence à m'essouffler. Je saute dans un canot, oui, je dois filer vers ma nature pour retrouver mes racines, mes trésors de famille, mes origines.
Puisqu'on est plus qu'une chose dans la vie, grand comme une tour, mon cœur a plein d'amis. Un vent de chez nous me rappelle qui je suis. Moi, je ne m'assimile pas, je m'enrichis, yeah.
Fier d'être connu et d'être resté, d'être encore là après tant d'années.
Belleville, Noëlleville, Riceville, Springville. Comme au centre-ville, yeah. 400 ans qu'on est ici. Du monde venu de plein de pays, d'Haïti, d'Europe, d'Asie et puis d'ici, d'Afrique, du Vietnam. Come on, Lego Man.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Usted Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes, tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça,
ben pourquoi pas? Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Il paraît que si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre parler plus de 120 langues à la fois sur le macadam de Toronto. Pas étonnant, si l'on considère ce que nous allons pas manquer de faire pour cette dernière étape de notre tour du monde estival au sein des alliances françaises, si l'on considère que le monde s'est donné rendez-vous à Toronto. Toronto, cette mégapole de 5 millions de citizens, est la capitale économique de l'immense Canada. Le Canada, c'est le second plus grand pays de la planète après la Russie. 10 millions de kilomètres carrés partagés par 36 millions d'habitants et autant d'élan, de caribous ou d'orignaux certainement.
Terre d'Alliance, Alexandre Hérault, sur France Inter.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti, j'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite, libre, évolutive, la langue vit, révolte, danse. Et le livre des livres est livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est un rempart à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Bienvenue à ce Sunday Brunch, le brunch du dimanche, Potpourri Show, jusqu'à 13h. Et oui, bienvenue à bord avec Didier Devera et votre animateur, 38 ans déjà, Eric Kader, jusqu'à 13h sur www.cut.fm. Pour écouter nos émissions, où que vous soyez dans le monde, popourrichaud.com. Cette émission est réalisée en partenariat avec le KEPCA, Mois du Créole à Montréal, dès le 29 septembre sur cette antenne. Toutes les informations sur moisducréole.ca ou popourrichaud.com. Le CREFO, notre partenaire de la saison, Université de Toronto, ne manquez pas la première conférence du 11 septembre. Les détails sur popourrichaud.com ou le site de CREFO. Sophie Franc, qui nous accompagne pour la 38e saison. Eh oui, ne manquez pas l'Assemblée Générale Annuelle. Tous les détails sur notre site. Ciné Franco, du 1er au 5 novembre prochain, en exclusivité, quelques films dès la semaine prochaine. Et oui, des billets pour les membres de la radio. TIFF, le grand festival international de films de Toronto, qui bat son plein jusqu'au 15 septembre. Et oui, Toronto vibre avec Tapis Rouge et les vedettes du cinéma mondial. Et oui, aujourd'hui, on vous donne quelques avant-goûts des films à l'affiche. Et nous avons des billets pour les membres. Eh oui, en bonne et due forme avec notre émission, la radio. Eh oui, quelques coups de cœur donc ce dimanche. Et nous saluons chaleureusement nos amis et médias étrangers québécois de passage à Toronto. Le festival Francophonie en fête, la diversité des musiques, des francophonies en plein air avec deux scènes captivantes. Animation jeunesse, jeux pour la famille, maquillage pour les tout-petits. Du 13 au 15 septembre à l'amphithéâtre The Bentway, 250 Fort York Boulevard, sous l'autoroute Gardiner. En salle le 27 et 28 septembre, deux spectacles à ne pas manquer. Tous les détails sur le site web francophonieenfête.com. Un avant-goût des artistes au cours de cette émission. Et la maison d'édition Prise de Parole qui nous présente ses nouveautés littéraires, des nouveaux chefs-d'œuvre qui nous font voyager dans l'univers des écrivains francophones, et oui, queer et autochtones. À découvrir sur notre site ou prisedeparole.ca. Potpourri Show, liberté, égalité, actualité. Et au menu ce dimanche, beau dommage à Symphonique, et oui, beau dommage à groupe mythique, groupe phare du Québec, présente une rencontre grandiose entre l'orchestre métropolitain et leur musique dans une version symphonique de leur plus grand succès. Et oui, tout un phénomène, un événement. Et oui, grand succès au Québec cet été. On en parle. Notre ami et nouveau collaborateur, Monsieur Ledoux, nous réserve un canular à mourir de rire, à ne pas manquer. Et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer une très belle nouvelle en provenance de la Belgique. Notre stagiaire franco-sénégalaise, qui était des nôtres dans les années 2015-2016, et oui, Mama Ndiaye Dembélé, vient de publier un livre pour enfants, Les Petits Talentueux, disponible sur Amazon. Un livre qui nous présente 30 portraits fascinants de jeunes filles, jeunes garçons d'origine afro, qui accomplissent des choses extraordinaires à travers le monde. Les Petits Talentueux, un livre avec des images, des textes simples pour enfants sur Amazon. Une copie disponible à un auditeur, une auditrice qui nous appelle ou qui nous envoie un message à popourri@cut.fm. Toutes nos félicitations à Mama Indey Dembélé, que j'espère rencontrer très prochainement en France. Et ce dimanche, notre partenaire français du Monde nous présente un sujet brûlant qui fait débat. Cette rentrée qui a démarré en trombe dans certaines écoles en Ontario et au Québec, parce qu'il y a toujours pénurie d'enseignants. Eh oui. Alors, donc, c'est un sujet dont on parle un peu partout sur nos campus, nos écoles. Faut-il bannir ChatGPT et autres intelligences artificielles dans les écoles, les universités et nos médias? Et oui, certaines universités prônent d'encadrer plutôt qu'interdire ChatGPT. Onde de choc chez les journalistes francophones et aussi certains médias hein, au Québec. Wow, une station de radio de la Gatineau, gatinoise, diffuse depuis le 1er septembre une émission entièrement animée par intelligence artificielle. Eh oui, c'est vrai. Est-ce la fin des radios animées par du vrai monde? Est-ce la fin de Popourri Show sur CUTFM? Seriez-vous favorable que notre émission soit animée par l'intelligence artificielle? Comment les machines pourraient nous remplacer ou faciliter des tricheries? Nous attendons vos réactions à popourri@cut.fm. Le monde de la radio n'est pas à l'abri de l'influence de l'intelligence artificielle. Je vous promets un extrait de la première émission de radio animée par l'intelligence artificielle analysée par Mathieu Dugal de Radio-Canada Gatineau. Sonia Devilliers, journaliste, écrivaine, chroniqueuse et animatrice sur France Inter, reçoit David Chavalara, auteur de Toxic Data. Comment les réseaux manipulent nos opinions, aux éditions Flammarion, un livre à lire absolument. La 19e édition du Festival musical de Tonneau Francophonie en fête donnera encore rendez-vous au Torontois dans le Bain-Poué, sous l'autoroute Gardiner, près du Fort York, à protéger des intempéries et promet 3 jours de spectacles gratuits et de festivités exceptionnelles. Un rendez-vous incontournable pour les familles, la jeunesse et la communauté. Et cette année, le festival innove en offrant aux organismes communautaires, aux restaurateurs et aux artisans des stands d'exposition. Par ailleurs, une programmation spéciale à l'intention des plus jeunes avec des spectacles pour enfants tels que Mamie Gâteau de TFO, Monsieur Philippe, Ballon Maestro et des jeux, des structures gonflables, maquillage pour enfants et bien plus encore. Francophonie en fête vous présente la programmation gratuite de la 19e édition de son festival du 13 au 15 septembre. 30 spectacles gratuits sur les scènes Glendon et Espace Jeunesse, vendredi 13 septembre, sur la scène Glendon. En sa qualité de pilier de la culture francophone et afin de faire rayonner la francophonie et le fait francophone dans la ville Rennes, le Festival Francophonie en fête offre 2 spectacles inédits en salle les jeudis 26 septembre à 19h au théâtre à Paradise, rue Blois, Ouest, célébration du jour des Franco-Ontariens. Et oui, d'ailleurs, on en parle sur cette antenne tout au long du mois de septembre. Jour du Franco des Franco-Ontariens, c'est bien sûr le 25 septembre à chaque année. Alors, le célèbre groupe LGS, le groupe Swing, vous offre un spectacle inédit pour célébrer cette belle journée le 26 septembre à 19h au Théâtre Paradise, rue Blois. Le groupe Swing, un groupe très très franco-ontarien à ne pas rater pour célébrer cette journée mémorable pour notre communauté franco-ontarienne. Et en première partie, Noémie et le Friendless Crew. On nous dit que ça va cadencer, c'est promis. Et le samedi 28 septembre à 20h, toujours au Théâtre Paradise, célébration de l'amour. Pour clôturer le festival et à l'occasion de son 25e anniversaire de carrière, Nicolas Ciccone vous invite à une célébration à l'amour avec ses plus grands succès, en français, en anglais et en italien. On vous invite à savourer les plus beaux 2 décennies de passion, de chansons, d'amour et de romantisme en compagnie de votre partenaire, un des artistes les plus aimés de la scène francophone. En première partie, Johanna Mora et ses musiciens exceptionnels seront maîtres à la table à cette soirée romantique. Marquez vos agendas dès maintenant et ne manquez pas cet événement riche en émotions. Pour toutes les informations et les billets, www.francophonieenfête.com ou encore notre site web popourishow.com. Francophonie en fête dès le 13 septembre, à ne pas manquer. Un artiste à découvrir, madame, monsieur. Bien entendre le titre que j'aime bien, Tu aimes à danser. You like dancing. Kizaba, ambassadeur de la musique électronique Afro House congolaise, artiste invité de Francophonie en fête. Il sera sur la scène Glendon le 13 septembre à 21h. Journée d'ouverture. Eh oui, auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, il propose un Congo riche musicalement. Sur scène, il manie la voix, la batterie et les percussions en mélangeant de la musique électronique et les sons traditionnels du Congo en créant un monde afro-futuriste. Pour tout savoir et aussi avoir une idée des autres artistes invités de ces trois jours, 13, 14, 15 septembre, allez sur le site francophonieenfête.com, francophonieenfête.com, et c'est en anglais, en français, bien sûr. Vous aurez la biographie de tous les artistes du Québec, de Toronto. Et ouais, il y a même des Irlandais, hein, des Bretons. Alors, dès 16h, le 13 septembre, j'espère vous voir nombreux. Francophonie en fête. Et oui, le mois du créole revient dès le 29 septembre sur CUT 89,5 FM en partenariat avec le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, le KEPCA, la 23e édition Mois du créole à Montréal et nos médias partenaires. Le mois du créole sur CUT 89,5 FM et au KEPCA est devenu un rendez-vous incontournable de toutes les cultures créoles dans et au-delà de leurs frontières géographiques. Le 1er octobre, le KEPCA vous invite à la soirée d'ouverture du mois du créole au Centre Phi, 315 rue Saint-Paul à Montréal, pour célébrer la richesse et la beauté de la culture créole avec un spectacle de lancement inoubliable. Au programme, un groupe de 9 musiciens talentueux sous la direction de Gaïa. L'artiste vedette du mois du créole, Rebecca Jean, et ses jeunes élèves présenteront la chanson-thème « Créole, c'est l'un de nous ». Tout au long du mois d'octobre, plongez dans une expérience culturelle inoubliable avec des conteurs créoles, des auteurs créoles, des artistes et leaders créoles sur les 5 continents. Mois d'octobre, mois du créole 2024. Des performances artistiques, des expositions et des discussions inspirantes sur CUT 89,5 FM et chez nos partenaires au CAPCA et le Mois du Créole de Montréal, à retrouver sur moisducréole.ca, capca.com ou popourichaud.com. Mois d'octobre, Mois du Créole 2024. Une programmation riche, un temps fort, convivial, généreux, inventif et revendicatif, accompagné de belles rencontres. Retrouvez la belle programmation sur moisducréole.ca, capca.com ou popourichaud.com.
Mes amis, ça fait bien longtemps, moi quitter pays, moi...
Bonjour tout le monde, moi c'est Michose Filosca, entrepreneur, animatrice, porte-voix 23e édition, Mois Créole, Kepka, organisé sous thème Créole, c'est langue nous, pas quitter l'allée. Moi, viens inviter nous dans le lancement Gros Rumble ça, qui va le dérouler mardi 1er octobre dans Centre Fille. Reine chanterelle soirée ça, c'est Abgaya Michel, une chanteuse qui t'est charmé jury émission La Voix dans TVA. Il a gagné 9 grands musiciens avec lui. Il va l'interpréter pour nous, succès musical qui sortit dans le groupe Tankou, Les Difficiles de Pétionville, Mono Charlemagne, Toto Vicente, Kassav, Bookman Experience, Mika Ben. Chanteuse Rebecca Jean, Akelev Lio, à Platou. $50 avant 1er octobre, 60 dans pote. Rendez-vous mardi 1er octobre, 6h30 dans Centre-Fille, 315 rue Saint-Paul. À réserver ticket nous dans pointdevente.com, info 514-750-8800.
Pour avant passer, pour tout craser, même l'enjambé de l'eau, quel que soit côté lié, créole, c'est l'enjambé.
Ça va le monde ?
Non, ça va, ça va.
Ça va ? Ça va le monde ?
Ça va le monde !
Ça va ? Ça va le monde ?
Ça va ?
Ça va le monde !
Ça va le monde !
Ça va le monde ! RFI vous invite à un cycle de lecture organisé en coproduction avec le Festival d'Avignon, la compagnie Utopia, soutenue par la SACD et l'Institut français. Pascal Paradou.
Dans le cadre de son partenariat avec RFI, Popourri Show est fier de vous présenter ça va le monde, un nouveau magazine qui vous fait découvrir des textes et des auteurs de théâtre vivant en Afrique, dans les Caraïbes ou au Proche-Orient, et écrivant en français pour raconter un monde multilingue et pluriculturel. Chaque année, 6 textes sont lus en public au Festival d'Avignon et enregistrés pour diffusion en direct et en vidéo sur Facebook. Puis sur les antennes de RFI. Ça va le monde. Sur CUT 89,5 FM. En partenariat avec RFI.
CIUT 89.5 FM. The sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
De 11h à 13h. Popourri Show sur CUT 89,5 FM Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
Vous cherchez un habillage sonore pour votre radio à moindre coût ? Le studio Lunaka a pensé à vous et a créé des séries de jingles Master Key pour enrichir vos programmes tout au long de la journée. Écoutez quelques extraits.
Ne cherchez plus. Sur cette fréquence, on vous offre la garantie du. Chez nous, les internet, les sans modération. Programme tonique. Nous, on n'arrête pas la musique. Encore plus de musique, Encore plus de relax. Reste accro et monte le son de ta. On ne se lasse jamais. On joue la mémé. Restez sur votre station préférée. On revient juste après. Priorité à la musique. Toi aussi, écoute ce son. Ah, tu aimes les titres qui balancent. Tu vas pas y aller.
Écoute
écoute. Écoute, tu vas adorer.
Souvenez-vous. Ça, c'était dans les années 80. Bienvenue dans cette expérience temporelle. Retour dans les années 80.
Alors n'attendez plus. Offrez à votre radio ou web radio de vrais jingles sans vous ruiner. Commandez et téléchargez-les sur notre site internet www.studiolunaka.com, rubrique espace radio. Lunaka, you sound designer.
Popourri Show, en partenariat avec Français du Monde, Toronto, a le plaisir de vous présenter Français du Monde, un nouveau rendez-vous d'actualité pour les Français d'ici et d'ailleurs. Français du Monde sur CUT 89,5 FM. Opportunités, bons plans, conseils pratiques, témoignages et les galères. Merci aux Français du Monde, Toronto. Faut-il bannir ChatGPT et autres intelligences artificielles dans les écoles, les universités et les médias? Certaines universités prônent d'encadrer plutôt qu'interdire. Une station de radio de Gatineau, Québec, diffuse depuis le 1er septembre une émission entièrement animée par intelligence artificielle. Est-ce la fin des radios animées par du vrai monde? Seriez-vous favorable que notre émission soit animée par intelligence artificielle? Comment les machines pourraient nous remplacer ou faciliter des tricheries? Nous attendons vos réactions à popourri@cut.fm. Le monde de la radio n'est pas à l'abri de l'influence de l'intelligence artificielle. Je vous invite à écouter un extrait de la première émission de radio animée par intelligence artificielle, analysée par Mathieu Dugal de Radio-Canada, Gatineau. Et juste après, Sonia Devilliers, journaliste, écrivaine, chroniqueuse et animatrice sur France Inter, reçoit David Chavalarias, auteur de Toxic Data, comment les réseaux manipulent nos opinions, aux éditions Flammarion. David Chavalarias est un mathématicien et écrivain français. Il est directeur de recherche au CNRS et au Centre d'analyse et de mathématiques sociales de l'École des hautes études en sciences sociales. Il est également directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France. Il fait partie de ces chercheurs français ayant exprimé des craintes et préoccupations à propos des risques associés à l'omniprésence et à la puissance des géants du web et à l'adoption trop rapide de l'intelligence artificielle générative. En 2022, il publie Toxic Data aux éditions Flammarion, un essai analysant notamment le rôle majeur de Twitter et de Facebook en matière d'influence à des fins politiques, y compris en France. Ce travail s'appuie entre autres sur Polyscope, un outil d'observation et d'analyse des données générées sur les réseaux sociaux, notamment à l'approche des élections présidentielles françaises. Dans Toxic Data, il montre comment le contexte des réseaux sociaux, les biais cognitifs humains, des chambres d'écho, des bulles de filtres toxiques, la marchandisation des données sociales, les manipulations d'opinion assistées par intelligence artificielle et les ingérences étrangères, notamment russes, peuvent influencer les opinions et les croyances des internautes, au risque de mettre les processus démocratiques en danger, notamment en polarisant les débats et en encourageant la radicalisation qu'ils engendrent. Donc, faut-il bannir ChatGPT et autres intelligences artificielles dans les écoles, les universités et les médias? Nous attendons vos réactions à popourri@cut.fm. Et voici Mathieu Dugal de Radio-Canada Gatineau. Ce segment est en partenariat avec Français du Monde Toronto, un organisme communautaire et culturel au service des Français vivant dans la grande région de Toronto. Vous retrouverez tous les liens sur notre site web popourrichaud.com. Popourrichaud, 38 ans. French is fun.
Bon, on va en parler, Aïda, de cette nouvelle annoncée en début de semaine par nos confrères de RNC Media, ici en Outaouais, là, donc le lancement de la nouvelle grille des programmes de la station WOW qui inclut une émission qui fait appel à l'intelligence artificielle.
Oui, l'émission est baptisée le décompte AI. Alors, faut vraiment prononcer à l'anglaise, on me l'a confirmé. Ça commence ce dimanche, le 1er septembre. Donc, ça va être un rendez-vous hebdomadaire chaque dimanche matin de 9 à 11 heures. L'émission est générée et animée par l'intelligence artificielle et c'est présenté par la station comme une première québécoise. Alors, j'avais évidemment tout plein de questions que j'ai posées au duo à qui on doit cette initiative. Sébastien Lavoie, qui est directeur des programmes et directeur musical de WOW 97.1 et son collaborateur, collègue Charles Pagérinville, directeur de marque de WOW. Ensemble, ils ont développé le concept de cette émission, le décompte AI, parce que l'intelligence artificielle, ça fait parler tout le monde, comme l'explique Charles Pagérinville.
Tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Tout le monde soit est fasciné par ça, soit a peur de ça. Puis tout le monde dit, est-ce que je pourrais perdre ma job un jour à cause de l'intelligence artificielle? Est-ce que au contraire, ça peut m'aider dans mon travail d'intelligence artificielle? Tout le monde, comme je viens de vous le dire, est fasciné par rapport à ça. Donc nous, on a décidé de se servir de la vague de l'intelligence artificielle pour voir ce que ça pourrait faire en ondes, mais c'est vraiment juste un clin d'œil.
Alors, un clin d'œil, c'est ce que m'ont dit les deux collaborateurs de la station WOW. Donc, en ajoutant que c'est en quelque sorte un coup de com' et ça marche, puisque la preuve, on est en train d'en parler. Et aussi, ça va susciter la curiosité pour attirer de nouveaux auditeurs vers les autres programmes de la station.
Bon, mais pour l'instant, en tout cas, c'est surtout cette émission-là, évidemment, qui fait parler d'elle, avant même qu'on l'ait entendue. Hein. Alors, à quoi ça va ressembler, là?
Alors, le décompte AI, à quoi ça va ressembler? C'est un palmarès musical. Ça va être, en gros, un top 30 de la semaine avec on va nous présenter les chansons les plus téléchargées et les plus écoutées sur les plateformes numériques. On va se baser autant sur les écoutes ici dans la région ou peut-être même sur d'autres classements comme les chansons les plus virales sur TikTok par exemple. Et l'intelligence artificielle, elle va intervenir à deux niveaux. Le palmarès déjà va être généré par une intelligence artificielle, puis l'animation de l'émission va être confiée à une voix qui elle-même est générée par intelligence artificielle. Alors, pour cela, la station WOW, elle n'a pas développé ses propres outils, elle s'est servie d'outils qui existent déjà. Pour le décompte, par exemple, c'est ChatGPT, on va poser la question à ChatGPT, c'est quoi les musiques les plus écoutées de la semaine? Puis c'est comme ça qu'on fera le décompte des chansons. Puis pour animer le décompte, le duo se sert de il y a plusieurs sites, en fait, qui proposent des voix pour animer des textes que vous avez rédigés. Vous les proposez, ils m'ont cité comme site Eleven Labs. Alors pour m'en rendre compte, pour mieux comprendre ce que ça pourrait donner, j'ai testé la plateforme en question, j'ai rédigé un court texte qui donne ceci lorsqu'il est lu par l'une des voix artificielles du site Eleven Labs.
Bonjour Philippe. Aujourd'hui, pour Sur le vif, je m'intéresse à l'intelligence artificielle et à ses implications dans le secteur des médias.
Alors, c'était ultra rapide. Je suis pas une as hein, des nouvelles technologies.
Non, mais vous voyez ce logiciel-là pour la première fois, là, et vous avez réussi à faire ça.
Alors, en même pas 5 minutes. Ça a été très rapide. C'était vraiment pas compliqué. J'ai choisi, moi, la voix de Sarah quand j'ai fait mon petit test. Mm-hmm. Donc, la voix de Sarah, c'est une des nombreuses voix que vous propose ce site. Je ne sais pas quelle voix a choisi la station. Ils m'ont simplement précisé qu'ils avaient choisi une voix masculine. Et il y a plusieurs choses qui ont été pensées pour bâtir une sorte de communication autour de cette voix. C'est ce qu'explique le directeur de marque de WOW, Charles Pagérinville.
On a même l'idée de lui trouver un nom, ne serait-ce que pour pousser la blague encore plus loin. Là. Alors, on est en brainstorm auprès de l'équipe, parce que même l'équipe d'animation trouve que c'est une bonne idée, trouve ça drôle, il embarque avec nous. Peut-être même que la voix va être présentée dans l'émission matinale de vendredi. Alors, on en fait un grand spectacle radio.
Alors la voix, elle va se présenter aux auditeurs dimanche matin déjà, donc peut-être même dès vendredi dans la matinale. Et pendant les 2 heures que va durer chaque émission, elle aura cette voix, donc 8 interventions de 15 à 45 secondes. Et parce que c'est un terrain nouveau qu'on est en train d'explorer, je leur ai demandé ce qui avait été mis en place pour encadrer l'émission. Ils m'ont rassuré en me disant que ça ne pouvait déraper d'aucune façon. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Il y aura aucune place laissée à l'improvisation. Il y a un contrôle avant diffusion de la liste musicale qui est proposée par ChatGPT. Et le duo souligne aussi que ce sont eux, en fait, qui coécrivent les textes qui seront lus. Ce travail d'écriture, c'est un des arguments de Sébastien Lavoie, donc directeur des programmes et directeur musical de la station, pour relativiser le côté intelligence artificielle de l'expérience radiophonique.
Et en ce moment, c'est plus de l'intelligence superficielle parce que c'est difficile de laisser l'IA toute seule. Là. C'est sûr qu'il faut lui... Je ne veux pas enlever la magie de l'émission et je m'en excuse à l'avance pour ceux qui pensent que tout est créé par l'intelligence artificielle, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui tape les mots, les virgules et les points pour chaque intervention de la voix artificielle. Elle a besoin d'un support, elle a besoin d'une équipe derrière elle. Tu sais, l'intelligence artificielle, c'est pas un outil de remplacement, c'est un outil d'accompagnement.
Alors, le ton se veut rassurant, mais il y a quand même des inquiétudes. Alors, avant d'y venir, eux me disent que du côté de la direction de la station, il y a eu beaucoup de curiosité, d'ouverture, pareil au niveau de l'équipe. Mais les inquiétudes, moi, je les ai beaucoup vues dans les commentaires des internautes. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont très curieux de voir à quoi ça va ressembler.
On serait à moins, là. C'est vrai que c'est... intéressant.
Mais c'est intéressant, mais il y en a aussi qui s'inquiètent, qui disent que ce sont des coupures budgétaires déguisées en innovation, que c'est un premier pas pour, je cite, tasser des humains. Alors Charles Pagérinville et Sébastien Lavoie assurent d'une seule voix qu'aucun poste dans cette tranche horaire n'a été condamné.
Ben écoutez, je vous répondrai que c'est pas du tout une coupe budgétaire parce que à cette heure-là, il y avait personne auparavant.
Et la personne qui le ferait s'il n'y avait pas l'intelligence artificielle, c'est quelqu'un qui est déjà en place et à qui on demanderait d'enregistrer cette émission de 2 heures et qui la ferait préparation animation préalablement en 30 minutes. Donc on est, je vous dirais même que ce projet-là nous demande plus de temps que si on donnait à un animateur déjà en place cette plage horaire.
Alors, quand je vous ai parlé d'inquiétude, je vous ai fait part de celle d'internautes, mais j'ai aussi parlé à des experts, des représentants syndicaux qui regrettent qu'il y ait un vide juridique. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, n'a pas souhaité répondre à nos questions, nous a simplement renvoyé à leur cadre réglementaire en ajoutant que des discussions sur la question étaient à venir. Donc, mais en attendant, ceux qui veulent explorer en ondes, en fait, les possibilités offertes par l'IA, on les coudées franches. Je vous le disais, j'en ai discuté donc avec des experts, des représentants syndicaux. C'était passionnant d'entendre leur point de vue, puis je vous en parlerai un peu plus tard, donc à 17h20.
Intriguant tout ça quand même. Merci Aïda.
Avec plaisir.
Alors là, c'est du lourd. 9h08, Sonia De Villers, votre invitée vous répond par écrit et vous lui avez choisi une voix de synthèse.
Voilà, Nicolas. Et d'ailleurs, en cours d'interview, évidemment, on va s'amuser à changer de voix pour varier les plaisirs. Bonjour, ChatGPT.
Bonjour, Sonia.
Première question très simple. Qui es-tu ?
Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Je suis capable de comprendre et de générer du langage naturel pour répondre à des questions et accomplir des tâches liées au langage.
Quel âge as-tu, ChatGPT ?
Je suis un programme informatique, je n'ai pas d'âge, j'ai été créé en 2020 et mon savoir s'étend jusqu'en 2021.
ChatGPT, as-tu un visage ?
Non, je suis un programme informatique, je n'ai pas de visage physique. Je suis un logiciel qui fonctionne sur des ordinateurs. Je n'ai pas de forme physique ou de visage visible.
Voilà, et je le répète, tu n'as pas de voix. D'ailleurs, on va te faire parler autrement. Comment as-tu appris toutes ces choses ?
Mon entraînement consistait à analyser de grandes quantités de textes en langue naturelle provenant d'Internet, de livres, de journaux et d'autres sources, pour apprendre à comprendre et à générer du langage. Ainsi, je suis capable de comprendre et de générer du langage de manière très similaire à celle d'un être humain, mais je suis beaucoup plus rapide et plus efficace pour traiter de grandes quantités de données.
Alors on va tester avec ce que j'ai sous la main. ChatGPT, as-tu déjà, il est sorti du studio, hein, on peut y aller. As-tu déjà entendu parler de Nicolas Demorand ?
Oui, je connais Nicolas Demorand. Il est un journaliste français, animateur radio et chroniqueur, connu pour avoir animé le 7-9e sur France Inter. Il est considéré comme un journaliste de gauche, engagé et ayant un style direct et acerbe. Il est aussi un écrivain et a publié plusieurs livres qui ont été plutôt bien accueillis par la critique.
Bon, alors tout n'est pas complètement exact là-dedans. Et Léa Salamé, tu connais ?
Oui, je connais Léa Salamé. C'est une journaliste et animatrice française. Elle est surtout connue pour avoir animé des émissions de débat et d'actualité sur France 2 et France Inter. Notamment, On n'est pas couché, aux côtés de Laurent Ruquier. Le Grand Journal, sur Canal+, et 28 minutes, sur Arte. Elle est également une chroniqueuse pour des magazines tels que L'Obs et Le Point. Elle est considérée comme une journaliste talentueuse, qui a su s'imposer dans un milieu très concurrentiel, et qui est reconnue pour son intelligence, son éloquence et son sens de l'analyse.
Wow. Bon alors du coup, je demande pas à ChatGPT ce qu'on dit de moi parce que ça va être beaucoup beaucoup moins élogieux que sur Léa. Ce qui m'intéresse évidemment dans ce qu'a dit ChatGPT, c'est que là-dedans il y a plein de petites erreurs. Hein. Nicolas Demorand par exemple n'a pas écrit des livres. Il y a pas d'article critique sur les livres de Nicolas Demorand. Léa n'a jamais animé le Grand Journal. Léa n'a jamais animé 28 minutes sur Arte. Alors pour comprendre ce que tout ça a de fascinant et en même temps de très limité, j'ai invité un humain. Bonjour David Chavalarias.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris. Vous êtes auteur d'un livre absolument passionnant sur lequel je vous avais interviewé qui s'appelle Toxic Data qui est paru chez Flammarion, où vous montrez très bien comment nos démocraties sont à la merci des robots qui génèrent des messages sur les réseaux sociaux, donc de ces intelligences artificielles-là qui vont pouvoir influer sur les opinions. Évidemment, on va en reparler. Mais d'abord, un peu de pédagogie. En quoi ChatGPT est aussi performant et à la fois aussi limité?
Alors, il faut bien comprendre que ChatGPT fait partie des systèmes informatiques qui vont apprendre des régularités. Donc, ils vont lire des grandes quantités de textes. Mmh. Ils vont essayer de deviner, après un mot, quel est le mot le plus probable. Donc, ils vont travailler en probabilité.
C'est des statistiques.
C'est des statistiques. Et donc, en fait, ChatGPT n'a aucune compréhension de ce qu'il dit. Juste, il essaye de maintenir une régularité par rapport à ce qu'il a vu par le passé. Et donc, par exemple, là, on a vu qu'il s'était trompé sur Nicolas Demorand ou Léa Salamé. Ouais. Parce qu'il a, il a vu que c'était des journalistes et il sait par ailleurs que souvent les journalistes écrivent des livres. Alors il a raconté que probablement elle avait écrit des livres ou qu'elle avait présenté dans telle ou telle émission, mais sans aucun souci de savoir si c'est vrai. Le seul souci c'est de savoir si c'est probable étant donné ce qu'il a déjà vu.
D'accord.
Et donc ça dépend aussi beaucoup de ce sur quoi on l'a entraîné.
C'est ça. Et donc vous l'avez déjà pris la main dans le sac, ChatGPT, à commettre des confusions énormes.
Bien sûr. Si vous lui demandez pourquoi tel prix Nobel, par exemple, qu'est-ce qu'il a dit sur la vitamine C, alors que c'est un sujet qu'il a abordé en fin de vie et où il a dit potentiellement n'importe quoi, il va vous dire telle personne a parlé beaucoup de la vitamine C et a eu le prix Nobel à cette occasion, mmh. alors que c'est pas du tout. C'est des événements qui sont décorrélés et il dit souvent beaucoup de bêtises, même si. Il est dit de manière très convaincante et c'est ça qui est problématique.
C'est ça qui est problématique. Évidemment, on va y revenir. Un mot quand même sur depuis quand sont apparues ces intelligences artificielles accessibles au grand public, la démocratisation de l'intelligence artificielle.
Alors, la démocratisation est très très récente parce qu'en fait, elle dépend des capacités de calcul. Et les capacités de calcul ont fait un bond énorme récemment. Elle dépend aussi de l'accessibilité des données, puisque c'est comme c'est un apprentissage statistique, ça a besoin de beaucoup 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 de données. Et ça, il y a eu un bond très récent, notamment avec les réseaux sociaux et tout ce qui se passe sur Internet, sur l'accessibilité de données ouvertes. Mmh. Et donc, ce n'est que depuis quelques années que ces choses-là sont accessibles. Et au grand public, là, ça fait deux ans. Enfin, c'est extrêmement récent.
Extrêmement récent. Alors, on va tester ChatGPT sur des choses, sur un autre genre d'exercice. On va voir s'il est mieux adapté à ce type d'opération. Par exemple, ChatGPT, il fait très froid ce matin. Est-ce que tu pourrais m'écrire un poème en alexandrin sur le froid?
Les nuits sont glaciales, le vent s'engouffre, faisant frissonner la ville endormie. Les rues désertes, seules résonnent les souffles des rares passants pressés de rentrer chez eux. Les arbres givrés semblent figés dans l'hiver. Leurs branches nues se tendent vers le ciel gris. La neige tombe, recouvre tout d'un manteau blanc. Et le froid s'insinue jusque dans nos os frêles.
Alors on va essayer autre chose. Est-ce que tu peux m'écrire une chanson dans le style de Jean-Jacques Goldman? C'est le chanteur préféré de notre directrice. Là, on va te mettre une voix masculine et pour s'amuser un peu, on va même te mettre une voix québécoise.
Refrain. On se lève tous les matins pour affronter la vie qui nous attend. On se bat pour nos rêves et on essaie de ne pas se perdre. Couplet 1. On marche sur les pavés, dans les rues de la ville. On se croise et se regarde, mais on ne se parle pas. On court après le temps, et on oublie de vivre. On se laisse emporter, par la course effrénée.
C'est génial quand même. C'est totalement, oui, oui. C'est totalement bluffant. Alors, j'ai testé, donc je le fais pas ce matin parce que ça va être un petit peu trop long, mais évidemment, je peux demander à ChatGPT de m'écrire une disserte de philo ou une disserte d'histoire. Là, s'il nous la déroule en entier, on va aller jusqu'au bout de l'émission, mais ça marche vraiment très très bien. Ça signifie que ChatGPT, les étudiants t'utilisent pour tricher tous azimuts. Il y a même une double page dans Le Parisien aujourd'hui en France qui s'en est alarmée. C'est grave.
Il est vrai que certains étudiants peuvent utiliser des modèles de traitement du langage comme moi pour tricher sur leurs devoirs ou leurs examens en générant des réponses ou des travaux à partir de mes réponses. Il est important pour les étudiants de comprendre que leur réussite doit être basée sur leur propre travail et leur propre compréhension des matières enseignées.
Voilà. Alors, David Chavalarias, vous qui êtes directeur de recherche au CNRS, ça pose quand même derrière ça une question cruciale, indépendamment de la triche dans les universités. C'est comment on distingue le faux du vrai?
Tout à fait. C'est-à-dire
comment on distingue un texte écrit par un être humain et un texte généré par l'intelligence artificielle?
Tout à fait. Et en fait, comme on entraîne ces intelligences artificielles sur des masses de données de plus en plus grandes, et qu'on construit ce qu'on appelle donc des modèles informatiques avec de plus en plus de paramètres, elles sont de plus en plus réalistes. Ce modèle de ChatGPT-3 est quasiment indistinguable de ce que dirait un humain, modulo donc les erreurs assez flagrantes de temps en temps.
Enfin, les humains font des erreurs aussi.
Mais les humains font des erreurs aussi.
ChatGPT. Et bonne journée et merci à vous David Chavalarias d'avoir accompagné l'intelligence artificielle.
Merci Sonia. Dans un instant totémique, Rebecca Manzoni en chair et en os.
Encore une ligne de trop, du gin dans son verre d'eau. Il avait des bonnes idées croches dans la tête. Mille et une raisons de rester à maison, mais toujours attiré par l'œil de la tempête. Oh non, y a vraiment rien à faire. L'homme à la moustache, un mauvais caractère. Oh non, y a vraiment rien à faire. Il nous tentera ce soir.
International du groupe France Média Monde, diffusé en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères.
des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Et un merci spécial aux équipes du CREFO qui a le grand plaisir de vous inviter à la conférence de Douglas Falcao, candidat à la maîtrise, le mercredi 11 septembre de 17h30 à 19h au 252 rue Bloor West. C'est le métro Saint-George. La thématique de cette conférence, l'enseignement inclusif de la composante linguistique en immersion française. Une étude mixte de l'expérience d'enseignants en immersion française avec l'approche plurilingue. Pour réserver votre place, inscrivez-vous immédiatement en cliquant sur le lien que vous retrouverez sur notre site ou celui du CREFO. Aussi à découvrir le nouveau podcast « Quoi de neuf » du CREFO, les cafés du CREFO. Dans cet épisode, professeur Emmanuel Lepuchon, directrice du CREFO, rencontre Sonny Lowe, professeur titulaire à l'université Bishops. À écouter absolument la thématique « Enseignement des langues et littératie critique ». Entretien avec Sonny Lowe, professeur à l'université Bishops, à retrouver sur le site du CREFO ou popourichaud.com. Merci au CREFO pour son engagement à l'éducation, aux francophonies, à la diversité et aux pratiques pédagogiques inclusives en contexte plurilingue. Pour cette 38e saison, Madame, Monsieur, la rédaction se mobilise afin de faire preuve de réactivité dans n'importe quelle circonstance. Elle utilise toutes ses ressources et son savoir-faire afin d'allier proximité et clarté au profit d'une information accessible et de qualité. Pourquoi est-il important de célébrer le 25 septembre ? Le 25 septembre, c'est l'anniversaire du premier drapeau franco-ontarien qui a eu lieu en 1975 à l'université de Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Mais c'est seulement en 2010 que le 25 septembre est devenu le jour des franco-ontariens et des franco-ontariennes. Tous les ans, ce jour reconnaît la contribution de la communauté francophone de l'Ontario à la vie culturelle, historique, sociale, économique et politique de la province. Le 25 septembre, c'est l'anniversaire du premier lever du drapeau franco-ontarien et jour des franco-ontariens et des franco-ontariennes. Avez-vous le goût à la fête? Connaissez-vous la petite histoire de l'Ontario français? Pourriez-vous me citer quelques têtes d'affiche de francophones engagés en Ontario français? Quels sont vos médias francophones préférés? Cas de surprise et billets ciné de Marcel Lynn, fondatrice de Ciné Franco, pour le festival du mois de novembre. Nous attendons vos réponses à popourri@cut.fm. Découvrez les activités organisées à Toronto et dans votre région en consultant le site mondrapeaufranco.ca ou popourrichaud.com. Joyeuse journée des franco-ontariens et des franco-ontariennes. CUT 89,5 FM, nous sommes, nous serons.
Ok, Yeah, moi je suis qui? Ouais. Yeah, moi je suis quoi?
C'est le tourbillon des superstars du rap qui ont unifié le français. Ici au Canada, je fais l'interprète comme Mathieu Dacosta. De Niagara à Matawa à Wawa.
Je sens sur le métro, je rêve tout haut. Bien comme une tour, bien enraciné. Je prends le train go, je chante tout haut. Je parle en français, chez nous en Ontario.
Et moi, ma queue se frappe au haut. Yeah, yeah, yeah. Elle frappe au milieu, c'est de la chute.
Ouais, comme elle est colorée.
Du 5 au 15 septembre, Toronto accueille le Festival international du film. Et oui, cette manifestation cinématographique est reconnue comme l'un des événements mondiaux majeurs dans le monde du cinéma. S'inspirant de la diversité culturelle de la ville de Toronto, le festival projette en moyenne plus de 300 films originaires de plus de 60 pays répartis dans une quinzaine de sections. Cette année, nous n'aurons que 6 films entièrement en français à nous mettre sous la dent et 14 avec des vrais bouts de français dedans, ce qui fait tout de même piètre figure en comparaison des années folles du festival où pas moins de 15 à 20 films dans la langue de Molière se partageaient les écrans, sans compter les œuvres multilingues. 49e édition du Festival international de films de Toronto jusqu'au 15 septembre. Et parmi nos coups de cœur, Berger de Sophie Desrattes. Et oui, film d'ouverture, première mondiale, fiction. Berger, Shepherds en anglais. Un film canadien de la nouvelle perle de la canadienne Sophie Desrattes. La réalisatrice nous emmène cette fois suivre Mathias Lefébure, écrivain québécois joué par Félix-Antoine Duval, dans sa quête d'expérience de vie rustique alors qu'il s'exile de Montréal vers les Alpes françaises pour y élever des moutons. Eh oui, la dure réalité du monde pastoral le force toutefois à remettre en question sa vision romantique du métier. La visite d'Élise, une fonctionnaire ayant cavalièrement quitté son boulot, donne une nouvelle direction à la quête de Mathias. Ensemble, ils amorcent une transhumance avec un troupeau de moutons à leur charge. Traversés par les rencontres et les épreuves de la montagne, ils vont se façonner une nouvelle vie. Berger, Shepherds en anglais, un film de Sophie Desrattes au Festival international de films de Toronto, du 5 au 15 septembre. Bande-annonce.
Je suis dans le sud de la France. Je suis désolé, j'ai pas dit à tout le monde que je partais. Je vais pas rentrer. Mais je m'excuse quand même de vous laisser tomber. Je suis disponible maintenant.
Tu viens de la ville ou pour jouer au berger?
Oui, je suis de la ville, mais en fait, je suis du Québec. Je suis québécois.
Ah, ben voilà. C'est pour ça que je comprenais tout à
l'heure. C'est pas un 3 étoiles, enfin...
Ah non, faut pas aimer les moutons. C'est toi le chef des moutons. Si tu les aimes, ils vont faire n'importe quoi.
J'ai rejeté ma vie d'avant, puis maintenant je suis berger.
C'est une blague?
C'est un métier dur.
Ah, mais c'est un couple qu'il me faut. Le troupeau doit transhumer à pied dans les gorges jusqu'aux Alpes.
On doit vous avouer que j'ai aucune expérience dans la montagne. Il y a que la montagne qui apprend à la montagne.
Un troupeau, tu contrôles la tête, la queue suit tout le temps.
C'est de la sociologie.
Oui, exact.
26 béliers pour 800 brebis en chaleur. On aime ça rock'n'roll.
À la fin de l'été, tu vas avoir des mollets comme des arbres. Nous, on est des nomades. On suit l'herbe. Elles se souviennent. D'une année sur l'autre, elles reconnaissent leur alpage.
Le monde doit s'écrouler. Je préfère être berger et ne pas y avoir trop participé.
T'es romantique, toi.
Les buzz de la semaine. Eh oui, c'était la rentrée cette semaine. Et quelques nouvelles rapides des écoles francophones de l'Ontario. L'école secondaire catholique de l'Ascension du Conseil scolaire Mon Avenir a ouvert ses portes pour la première fois mardi dernier et a accueilli les premiers élèves francophones pour la rentrée scolaire 2024-2025. Très attendue par la communauté franco-ontarienne de York, elle vient soulager le besoin pressant de la région de l'unique autre école secondaire de langue française en suraffectif. Le nombre d'élèves qui fréquentent les écoles de langue française en Ontario est en constante hausse depuis le début des années 2000, révèlent des données du ministère de l'éducation de la province. Les anglophones, de leur côté, sont en baisse en proportion comme en nombre. Élèves francophones, le Nord en perte de vitesse. Ottawa et Toronto en expansion. Construit-on assez d'écoles en Ontario? Les chiffres disent que non. Des articles très intéressants à retrouver sur le site et plateforme numérique de ONFR-TFO. Bien qu'enthousiastes de la rentrée, bon nombre d'étudiants du collège Boréal à Windsor éprouvent des difficultés à trouver un logement à proximité du campus. D'ici la fin du mois de septembre, je dois me trouver un logement, explique Andrea Panza, étudiante en deuxième année en administration des affaires au collège Boréal. Andrea est en perpétuel déménagement depuis presque une année et demie. Selon le site rentals.ca, le prix moyen d'un loyer avec une chambre était de 1 530 $ en juin. L'Université Concordia de Montréal signale une baisse de près de 30% des inscriptions d'étudiants de l'extérieur de la province à la suite d'une baisse controversée des droits de scolarité annoncée l'an dernier par le gouvernement du Québec. Alors que la pénurie des enseignants est à son comble en Ontario, eh ben Nathalie Bédard, enseignante franco-ontarienne à la retraite de la région de Thunder Bay, se rendra dans quelques jours à Kigali, capitale de Rwanda, où elle passera les 6 prochains mois à titre enseignante ressource. Et la nouvelle qui a fait l'événement cette semaine, tenez-vous bien, madame, monsieur, la ville de Montréal devra indemniser des victimes de profilage racial par le service de police de la ville de Montréal. Et oui, elle tient la ville de Montréal responsable de ces atteintes discriminatoires et fautives commises par des policiers dans l'exécution de leurs fonctions. La juge ajoute que la ville contribue au profilage racial occasionné par sa procédure d'interpellation. Par conséquent, la Cour supérieure ordonne à la ville de Montréal de verser 5 000 $ à toute personne qui aurait été interpellée sans justification entre juillet 2018 et janvier 2019 et dont les informations personnelles ont été enregistrées par les policiers. Et sur la scène internationale, rapidement, la Tunisie, 3 candidats à la présidentielle retenus, dont Kais Saied, 3 autres exclus définitivement à 30 jours de la présidentielle. La Ligue tunisienne des droits de l'homme fait part de ses inquiétudes. Reportage à retrouver sur le site de RFI. France, au moins 12 migrants morts dans le pire naufrage de l'année 2024 dans la Manche. Et oui, diplomatie, la France a perdu sa boussole dans le monde. Et a-t-on un nouveau Premier ministre? Si vous connaissez la réponse, vous m'envoyez un message à popourri@cut.fr. Toujours en France, un sentiment de déclassement professionnel règne chez les immigrés africains, selon l'INSEE. Et c'est la rentrée des classes, mais aussi la rentrée de la francophonie. En effet, l'OIF annonce l'ouverture officielle à la presse internationale pour le prochain sommet de la francophonie 2024 qui se tiendra le 4 et le 5 octobre prochain. Et d'ailleurs, nous serons sur place pendant ce sommet extraordinaire qui se déroulera à la Cité internationale de la langue française, Château de Villiers-Cotterêts et le Grand Palais à Paris. Et oui, lieu emblématique de la francophonie. Les journalistes et les médias professionnels, y compris RFI et France 24, seront sur place et nous vous ferons vivre en direct cet événement important de la francophonie internationale. Dans un instant, le journal d'Haïti et des Amériques avec RFI. Bon appétit si vous êtes à table. French is fun.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
En temps universel, il est 15h ici à Paris. Merci d'écouter RFI.
RFI Midi, Anne Contner.
Dernière partie de notre rendez-vous quotidien. Nous sommes sur le continent américain avec à la une le scandale au Honduras après la diffusion de vidéos dans lesquelles on voit le beau-frère de la présidente échanger avec des trafiquants de drogue. Entretien à suivre dans une dizaine de minutes avec le président du Conseil économique et social des Nations Unies, le Canadien Bob Rae, qui rentre tout juste d'Haïti. Ça va un tout petit peu mieux sur le plan sécuritaire, dit l'ambassadeur canadien auprès de l'ONU. Et il rassure sur le déploiement prochain du reste de la mission multinationale menée par le Kenya. Vous entendrez aussi le nageur brésilien Gabriel dos Santos Araújo, 22 ans seulement, et déjà légende des Jeux paralympiques. Et puis comme chaque jour, notre rendez-vous avec les Outre-mer. Benoît Ferrand, les forces de l'ordre sont encore présentes à Fort-de-France, en Martinique, ce matin.
Oui, pour maintenir la liberté d'accès aux installations portuaires, liberté menacée par la mise en place de barrages en signe de protestation contre la vie chère. Nous entendrons tout à l'heure deux avis relativement contrastés sur cette problématique de la vie chère.
À tout à l'heure.
RFI Midi.
RFI Midi. Cap Haïtien. 100.5 FM.
Dans la presse en Haïti, Christophe, on reparle du scandale de corruption touchant la Banque Nationale de Crédit.
Et la BNC, un scandale qui touche trois conseillers présidentiels. Il y a un mois, rappelle le Nouvelliste, le président du conseil d'administration de la BNC avait écrit au Premier ministre Gary Conille pour dénoncer ces trois conseillers qui, selon lui, avaient exigé un paiement de 100 millions de gourdes pour le maintenir à son poste de président de la banque. Or, explique le Nouvelliste, parce que la majorité décisionnelle au Conseil présidentiel est de 5 membres sur 7, aucune décision ou résolution ne peut être adoptée sans le consentement de, justement, ces trois conseillers présidentiels. Et Louis Gérard Gilles, Smith Augustin et Emmanuel Vertilaire, écrit Le Quotidien, se sont opposés à une résolution du Conseil présidentiel de transition pour faire la lumière sur ce scandale.
À lire toujours dans le Nouvelliste, une question en titre de l'éditorial du jour. Des semaines critiques en perspective.
Le journaliste note que les forces de l'ordre sont en mode offensif. La police et l'armée, appuyées par la mission multinationale d'appui à la sécurité, sont mobilisées depuis une semaine au Bel Air et à Solino, deux arrondissements de Port-au-Prince. Les chefs de gang, après avoir espéré des négociations, ont compris qu'il y a jusqu'ici une volonté de les traquer, une volonté de reconquête des espaces conquis, estime le Nouvelliste, qui rapporte les propos tenus hier par le chef de gang, Jimmy Cherizier, Barbecue. Le chef de la police et le Premier ministre n'ont qu'à se préparer, nous allons incendier tous ceux qui restent. Les prochaines semaines pourraient être critiques, écrit Robertson Alphonse. Les forces de l'ordre devront obtenir ou se donner les moyens afin de prendre le taureau par les cornes. Et les partenaires internationaux, à l'exception des USA, ne pourront pas se cacher encore longtemps derrière leurs petits doigts pour ne pas tenir leurs promesses de financement et de troupes. Le Nouvelliste estime que la participation des responsables haïtiens à l'Assemblée générale de l'ONU ce mois-ci sera critique.
Les Nations unies qui suivent en tout cas de près la situation en Haïti, qui veulent le montrer en tout cas, le président du Conseil économique et social en revient et notre correspondante a pu le rencontrer à New York. Bob Ray rappelle que la situation humanitaire est toujours dramatique. En Haïti, plus de 5 millions de personnes n'ont pas de quoi manger, 500 000 survivent aujourd'hui sans abri. Christophe, vous nous parliez de la mission multinationale menée par le Kenya, son déploiement traîne en longueur, mais les hommes qui sont déjà sur place, les opérations menées avec la police haïtienne ont permis des améliorations. L'ambassadeur canadien auprès des Nations Unies le confirme au micro de Karine Auton.
Ambassadeur Ray, bonjour. La force kenyane a annoncé des succès engrangés sur le terrain. Les Haïtiens semblent en douter. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, sur place? Est-ce que la situation vous semble meilleure?
Oui, meilleure. Ils ont réussi à élargir les zones de sécurité dans la ville. Ils ont besoin encore de l'équipement. Ils ont besoin des blindés. Ils ont besoin de la technologie qui peut matcher la puissance, le pouvoir des gangs. Du point de vue sécuritaire, on a un plan. C'est clair qu'il y a une vision qui est partagée par la force du MSS et aussi par la police et par les autorités civiles et par l'armée, parce que l'armée maintenant est retournée un peu dans la situation.
Alors, quelques 400 policiers kenyans sont pour l'instant sur le terrain. La force multinationale est loin d'être au complet. Pourquoi cette lenteur dans le déploiement? N'est-ce pas donner du temps aux gangs pour s'organiser?
Oui, c'est clair. 400, ça, c'est pas suffisant. Nous avons encore 700 membres du PNH qui sont en train d'être formés. Ils seront prêts en quelques semaines. Nous aurons encore des additions venant de Kenya. Kenya a dit qu'ils sont prêts pour faire 1 000, alors c'est beaucoup. Et il y a les pays de la Caraïbe qui sont en train de voir comment ils peuvent aider à la fois sur la mer. La question des armes, la question des drogues, ce sont des activités que nous savons sont très actives. Les Bahamas, les autres pays dans la région sont prêts à ajouter leurs forces. Et je crois que ça va nous aider avec les bateaux américains, canadiens, les autres, ça va nous aider. Alors, Est-ce que ça prend trop longtemps? Absolument. Est-ce que ça a été difficile? Oui. Et est-ce qu'on est dans une position pire qu'on aurait été si c'était avancé plus tôt? Oui. Mais quand même, il faut dire que ça commence à améliorer un peu.
Un scandale de corruption a éclaté le mois dernier au sein du Conseil présidentiel de transition. Est-ce que cela n'affaiblit pas cet organe transitionnel?
Ça complique les choses. Mais j'ai eu une discussion très franche avec le Premier ministre là-dessus. Je pense que ils sont prêts à prendre les mesures nécessaires pour assurer, mais il faut avoir une enquête très rapide. C'est essentiel qu'on arrive à une conclusion et les partis qui ont nommé des gens doivent être prêts à nommer des autres s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui a été découvert et qui est vraiment le cas. Mais les gens nient l'accusation, alors il faut donner l'opportunité pour les gens de s'expliquer. C'est ça qui arrive maintenant. Mais il n'y a aucun effort de nier le problème ou d'éviter la réalité qu'il faut trouver des solutions.
La CARICOM, elle, dénonce la lenteur de la transition. Plusieurs engagements pris dans l'accord de transition ne sont pas respectés. Qu'est-ce que vous en pensez?
La leçon d'Haïti, que les choses prennent plus long qu'on avait pensé et qu'on avait espéré. C'est ça la situation. Je ne pense pas qu'il y a un refus de la part de la classe politique d'accepter le changement, mais quand même, ça prend du temps. Est-ce que ça prend trop longtemps? Oui, absolument. Mais il faut continuer d'essayer d'avancer les choses.
Vous avez encore confiance dans un processus de transition censé s'achever en février 2026?
Oui, et franchement, on n'a pas de choix. Dans le printemps, on a fait du progrès. On est arrivé à quelques décisions. Décision qui, à mon avis, était positive. Décision qui a mené à la nomination du M. Conil comme le premier ministre du pays. Et maintenant, on verra. Le conseil pour l'élection sera nommé très, très bientôt. J'ai discuté avec le comité de transition et je pense qu'ils sont d'accord que ça va arriver. Pour moi, la seule question qui reste, c'est qu'une élection est possible seulement si la situation sécuritaire est améliorée. C'est ça l'essentiel. La question humanitaire qui avait été tellement affectée par l'insécurité et la violence. Et si on peut avancer sur ces deux aspects de la vie, une élection viendra, j'en suis certain.
En juillet, l'ambassadrice américaine Greenfield a déclaré que la communauté internationale devait exiger que les gangs rendent des comptes pour les atrocités passées. Où en est l'ONU sur cette question? Trouvez-vous que les sanctions contre les gangs sont efficaces?
Les sanctions ont aidé, mais franchement, elles n'ont pas été appliquées universellement. On a des sanctions des pays comme le Canada. Nous avons le plus grand nombre de personnes sanctionnées. Les États-Unis, ils ont deux. L'ONU, un. Et puis l'Europe, pas beaucoup. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance des sanctions. Mais pour être efficace, les sanctions doivent être appliquées universellement. C'est-à-dire que tout le monde doit être d'accord. Les Chinois, les Russes, non, on n'attend pas grand-chose. Mais quand même, le Conseil de sécurité doit toujours faire attention à ça.
Sur un autre sujet, que peut-on attendre de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui est attendu ces jours-ci?
Ça va nous aider beaucoup, je pense, à établir des stratégies plus efficaces. Et c'est essentiel. Parce que M. Blinken, il va aussi venir à New York pour les réunions de haut niveau.
Michel Martelly, qui a été président d'Haïti entre 2011 et 2016, a été sanctionné par les États-Unis au mois d'août. Le Canada l'avait déjà fait et a applaudi cette décision. Pourquoi le Canada et les États-Unis se contentent de sanctions et n'engagent pas de poursuites judiciaires?
Nous faisons un effort dans nos pays pour voir s'il y a des activités des gens qui peuvent être sous la juridiction canadienne ou américaine. Mais l'essentiel, c'est que les autorités haïtiennes prennent responsabilité pour le problème de corruption. Ils ont des lois, ils ont des règles, mais les règles ne sont pas respectées, ni les lois respectées. La sécurité doit être menée par les Haïtiens. La justice doit être menée par les Haïtiens. Le développement, les plans économiques doivent être menés par les Haïtiens. L'État haïtien existe. Ils ont une certaine capacité. S'ils ont besoin d'encore d'assistance, oui, on est prêt à donner, mais la volonté doit sortir de la situation haïtienne et les Haïtiens doivent prendre responsabilité pour l'administration de justice, pour l'activité des polices, la question de comment former une armée, tout ça. Ils ont la capacité de le faire eux-mêmes. Ils doivent le faire. Il faut se souvenir qu'il y a 6 mois, on ne savait pas exactement qu'est-ce qui pourrait arriver pour donner une possibilité aux Haïtiens. Et la chose importante aujourd'hui, c'est qu'il y a des possibilités. Alors, il faut prendre avantage de ce moment.
Ambassadeur Ray, merci beaucoup.
Merci.
L'actualité des Outre-mer et on vous retrouve, Benoît Ferrand. À Fort-de-France, les forces de l'ordre sont encore présentes ce matin pour maintenir la liberté d'accès aux installations portuaires.
Liberté est menacée par la mise en place de barrages lundi en signe de protestation contre la vie chère, mouvement relayé d'ailleurs à l'intérieur du port où la manutention des conteneurs est pour l'instant à l'arrêt. Invité hier soir du journal télévisé de la Première Martinique, le préfet Jean-Christophe Bouvier s'est dit prêt à des discussions sur le coût de la vie dans le département, tout en précisant aussitôt que, selon lui, il sera bien difficile d'arriver à une véritable baisse des prix.
Aujourd'hui, toutes les études qui ont été faites montrent que la problématique structurelle de la vie chère ne vient pas tant du fait que les marges sont supérieures au niveau des distributeurs martiniquais. Les études qui ont été faites par tous les services de contrôle montrent que ces marges sont équivalentes peu ou prou à celles qui existent partout ailleurs dans l'Hexagone.
Vous parlez de l'Hexagone. Dans l'Hexagone, le gouvernement est rentré en négociation, en confrontation même avec les distributeurs. Le gouvernement a obtenu un accord avec ses distributeurs. Mm-hmm. Est-ce que ces mêmes négociations ont été effectuées en Martinique avec nos distributeurs de Martinique?
Elles peuvent l'être. Quand le gouvernement a travaillé avec les distributeurs, c'est avec les distributeurs nationaux, y compris la Martinique. La Martinique a des spécificités insulaires. Savez-vous que les produits importés en Martinique, on le dit, sont plus chers que dans l'Hexagone pour les produits alimentaires de 40%. Mais quand vous allez dans les territoires autour de la Martinique qui importent aussi et qui sont dépendants de l'extérieur, ces prix sont parfois supérieurs à ceux de la Martinique, alors même qu'ils sont importés par des territoires indépendants.
Il faudra bien pourtant arriver à s'attaquer sérieusement à cette problématique récurrente en Outre-mer et depuis longtemps. C'est en tout cas l'opinion de la députée de la Martinique, Béatrice Bellé, qui estime qu'on ne peut plus se contenter en 2024 d'expliquer aux gens qu'ils n'y comprennent rien et que l'on ne peut rien changer.
Je suis sidérée parce que c'est de la faute de personne. Et donc il va falloir quand même qu'on trouve des solutions, mais c'est jamais de la faute de personne. C'est l'éloignement, mais ça devient beaucoup plus cher. Personne ne fait de marge et personne ne fait d'intérêt, mais on a en face quand même des commerçants qui n'ont pas vocation à être ni des altruistes ni des philanthropes. Il y a aussi le métier de l'État. L'État aussi doit protéger ses populations. Il y a aussi le métier des collectivités locales qui doivent mettre en place des services publics qui sont aussi de nature à donner en capacité de vivre aux citoyens. Donc je pense qu'il faut décortiquer, mais le fait que tout le monde se passe la patate chaude commence à agacer, à sidérer, à aussi générer ce que l'on a entendu, c'est-à-dire aujourd'hui un ras-le-bol et cette impression que rien ne va changer parce qu'aucun acteur ne veut prendre des responsabilités.
Affaire à suivre. Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand.
Eh oui, Popouri Chou et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, TEPCA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPCA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPCA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Mes amis, ça fait bien longtemps, moi qui t'ai payé moi.
Bonjour tout le monde, moi c'est Michel Siloska, entrepreneur, animatrice, porte-voix 23e édition, moi créole, KEPCA organisé sous thème créole, c'est langue nous, pas quitter l'allée. Moi, viens inviter nous dans le lancement Gros Wumble ça, qui va le dérouler mardi 1er octobre dans Centre Fille. Reine chanterait soirée ça, c'est Abgaya Michel. yon chantez ki te chame jiri emisyon La Voix nan TVA. La gen 9 gran mizisyen avek li. Yo pral interprete pou nou sikse mizikal ki soti nan group tankou Le Difficile de Pétionville, Mono Charlemagne, Toto Bissent, Kassav, Boukman Experience, Mika Ben. Chantez Rebecca Jean ak Lev Lio a Platou. $50 avant 1er octobre, 60 nan pot. Rendez-vous mardi 1er octobre, 6h30 nan Centre-Fi, 315 rue Saint-Paul. Al réserver ticket nous nan pointdevente.com, info 514-750-8800.
Ou avant passé, poudou poudou crasé, même l'en jambé de l'eau, quel que soit côté lié, créole, c'est long.
Et oui, le mois du créole revient dès le 29 septembre sur CUT 89,5 FM en partenariat avec le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, le KEPCA. La 23e édition Mois du créole à Montréal et nos médias partenaires. Le mois du créole sur CUT 89,5 FM et au KEPCA est devenu un rendez-vous incontournable de toutes les cultures créoles. Dans et au-delà de leurs frontières géographiques. Le 1er octobre, le KEPCA vous invite à la soirée d'ouverture du Mois du Créole au Centre FI, 315 rue Saint-Paul à Montréal, pour célébrer la richesse et la beauté de la culture créole avec un spectacle de lancement inoubliable. Au programme, un groupe de 9 musiciens talentueux sous la direction de Gaïa. L'artiste vedette du Mois du Créole, Rebecca Jean, et ses jeunes élèves présenteront la chanson thème « Créole, c'est langue nous ». Tout au long du mois d'octobre, plongez dans une expérience culturelle inoubliable avec des conteurs créoles, des auteurs créoles, des artistes et leaders créoles sur les 5 continents. Mois d'octobre, Mois du Créole 2024. Des performances artistiques, des expositions et des discussions inspirantes sur CUT 89,5 FM et chez nos partenaires au KEPCA et le Mois du Créole de Montréal à retrouver sur moisducréole.ca, kepca.com ou popurucho.com. Mois d'octobre, Mois du Créole 2024. Une programmation riche, un temps fort, convivial, généreux, inventif et revendicatif, accompagné de belles rencontres. Retrouvez la belle programmation sur moisducréole.ca, kepca.com ou popurucho.com. De 11h à 13h, Popurucho sur CUT 89,5 FM Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence. Popurucho célèbre la 49e édition du Festival international de films de Toronto, du 5 au 15 septembre. Parmi nos coups de cœur, Les Barbares, de Julie Delpy, un film qui nous transporte à Pimpon, où l'harmonie règne parmi les habitants. Il y a Joël, l'institutrice donneuse de leçons, Anne, la propriétaire de la supérette à porter sur l'apéro, Hervé, le plombier alsacien plus breton que les bretons, ou encore Johnny, le garde champêtre, fan de Johnny. Dans un grand élan de solidarité, ils acceptent avec enthousiasme de voter l'accueil de réfugiés ukrainiens. Sauf que les réfugiés qui débarquent ne sont pas ukrainiens, mais syriens. Et certains, dans ce charmant petit village breton, ne voient pas l'arrivée de leur nouveau voisin d'un très bon œil. Alors, au bout de compte, c'est qui les barbares ? Les barbares de Julie Delpy à découvrir absolument au Festival international de films de Toronto du 5 au 15 septembre. Bande annonce.
Pimpon, c'est une ville qui bouge pas mal, hein. Dès que les Russes ont envahi l'Ukraine, tout le village s'est mobilisé.
C'est vrai que les Ukrainiens, ils ont beaucoup souffert, hein. j'ai voté pour qu'on les accueille.
Hervé Rioux, adopté à l'unanimité.
Je me suis occupée de tout l'administratif pour la venue des réfugiés.
Excusez-moi, il faut que je vous parle.
C'est qu'il y a eu tellement de demandes de réfugiés ukrainiens, ben il n'y en a plus.
En fait, ce sont des Syriens.
Des Syriens qui viennent d'Ukraine.
Non, de Syrie.
Il a trois femmes, le gars.
Mais non, je te dis, il y a aussi sa sœur et sa fille.
J'ai aucun problème, hein.
Ah, ben, c'est pas une insulte, hein.
Non, ça vous filmez pas, hein. Non.
Le racisme, c'est les gens qui aiment pas les noirs. Mon père, il aime bien Mbappé ou Omar Sy.
Le racisme, ça vient de la peur.
Bonjour.
La peur qu'on leur prenne leur femme.
Pourquoi tu fais coucou, toi?
Bon. Welcome here. La peur qu'on leur prenne leur travail. Anne et Philippe ont décidé de vous offrir des produits d'ici.
Oui, enfin, il y aura des produits qui seront un peu périmés d'une ou deux journées, mais c'est très bon, moi je mange que ça.
Ça...
À vous?
Vous la voulez? 1 euro.
Quoi?
1 euro, putain, 1 euro.
J'en ai marre d'être habillé avec quelqu'un qui fait ça, qui ne veut pas aider les autres.
Si t'étais Mère Teresa, ben tu serais en Syrie. Tu serais pas à Pimpon, là.
Tu t'es déjà imaginé ce que c'est? T'arrives d'un pays en guerre, dans un pays où t'as aucun repère et on t'insulte.
Faut créer une dynamique autour des faillades.
C'est-à-dire, je comprends pas. Je parle pas le Macron, moi.
Défendre notre identité régionale, l'âme bretonne.
Métallisation.
Popourri Show, en partenariat avec Français du Monde, Toronto a le plaisir de vous présenter Français du Monde, un nouveau rendez-vous d'actualité pour les Français d'ici et d'ailleurs. Français du Monde sur CUT 89,5 FM. Opportunités, bons plans, conseils pratiques, témoignages et les galères. Merci aux Français du Monde, Toronto.
Ah, bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Excusez-moi de vous déranger, j'entends pas bien, j'ai un certain âge. Hein.
Oui.
Je voulais savoir si vous vendiez des caravanes d'occasion.
Oui, bien sûr, oui. Tout ça dépend de ce que vous recherchez en grandeur, mais il faudrait venir les voir.
Parce que je voudrais partir en vacances cet été.
Oui.
C'est moi qui conduis.
Oui.
Et je voudrais amener mes enfants avec.
Oui, mais qu'est-ce que vous avez comme voiture, mais...
C'est un Solex que j'ai. Je roule en Solex, hein. Et mon gendre a mis la boule de tennis à l'arrière du Solex, vous savez, au-dessus du catadiop.
Vous recherchez une caravane?
Oui.
Et vous allez tracter ça avec quoi, vous me dites?
Ben, j'ai un Solex depuis 35 ans. Il roule très bien.
Non, mais attendez, vous êtes chez un marchand de caravane, là.
Oui, je sais bien.
Vous n'allez pas tracter une caravane avec un Solex, quand même?
Mais si.
C'est pas sérieux, ça, madame.
Pourquoi?
Les caravanes, les moins lourdes font 600 à 700 kilos. Vous n'allez pas tracter ça. Non, non. Pour tracter une caravane, il faut une voiture.
Mais non, j'en ai déjà fait.
Vous l'avez déjà fait?
On a fait toute la Côte d'Azur il y a 20 ans avec.
Vous avez quel âge?
83 ans.
Ah non, mais là, vous êtes trop âgé pour tracter, là.
Mais c'est moi qui conduis, hein.
Oui, avec le sac?
Mais évidemment.
Mais qu'est-ce que vous aviez mis derrière?
Une caravane.
Ah non, là, je vous comprends pas.
On était 8 dedans.
8 dedans?
Oui.
Oui, mais pas avec un vélo Solex, quand même.
Mais pourquoi pas?
Mais non, mais monsieur, madame, pardon, une caravane, c'est une... je vous comprends pas, là, parce que... Là, non, mais vous allez pas me dire, quand même, que vous voulez mettre une caravane derrière un vélo Solex.
On l'a déjà fait, je vous dis. Je vais vous passer mon mari, vous allez voir, hein.
Bon, ben, passez-moi votre mari, alors.
Je vais vous le chercher, je reviens.
Merci. Ah, ça, on ne l'avait encore jamais fait, ça.
Merci. Allô?
Oui, bonjour, monsieur.
Ah, non, c'est madame, il arrive, là.
Ah bon, d'accord, c'est madame, oui.
Oui, merci. Allô?
Oui, monsieur, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Oui, alors, votre dame, elle m'appelle, là, pour une caravane.
Oui, ah oui. D'occasion, hein?
D'occasion, mais oui, mais vous voulez tracter ça. Vous tractez ça avec quelle voiture?
Pas avec une voiture, monsieur. Nous avons un vélo Solex.
Non, mais là, ça va pas, là. Vous voulez acheter une caravane?
Oui.
Pour tracter avec un vélo Solex?
Mais on a une boule.
Qui est montée sur quoi?
Ah, sur le catadiop.
Ah non, mais... Et ça fait combien de chevaux, votre appareil, là?
Mais ça fait pas de chevaux, c'est un Solex, enfin.
Mais un Solex, on peut pas tracter une... Vous me demandez une caravane. Vous allez pas mettre la caravane à l'arrière du vélo Solex, quand même?
Mais on ne va pas loin, hein.
Mais non, mais même que vous n'allez pas loin. Non, non, mais ça, c'est impossible, ça. C'est tout.
Bon.
D'accord, ok.
Attendez, mon fils est là. Il va vous expliquer, lui, au moins.
D'accord. Je vais peut-être arriver à comprendre.
Merci.
Allô?
Allô?
Ah, oui, bonjour monsieur.
Oui, bonjour monsieur.
Docteur de la place, l'appareil. Oui, de quoi s'agit-il?
Non, parce que j'ai une dame qui vient de m'appeler qui veut une caravane.
Oui.
Et alors, elle me dit qu'elle veut acheter une caravane pour la tracter avec un vélo Solex.
Pardon?
Non, non, mais...
Attendez, non, parce que là, vous êtes dans une institution psychiatrique, vous avez eu deux de mes patients auparavant.
Oui.
Je suis leur médecin soignant, là, je viens de les surprendre au téléphone.
Ah, bon, bah, alors, oui. Merci, heureusement de me... Pfff, bah, non. Bon, d'accord, j'ai compris, docteur, merci.
France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux. Avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur France24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Après le retrait du président Joe Biden de la course à la Maison-Blanche, Donald Trump ne passe pas une journée sans attaquer frontalement sa nouvelle rivale Kamala Harris, usant de divers surnoms insultants pour la qualifier. Kamala Harris est-elle le cauchemar de Donald Trump? La candidature de Kamala Harris rebat-elle les cartes de l'élection? Qui sont ces séduits par Donald Trump? Kamala Harris pourrait-elle faire trébucher Donald Trump? Présidentielle américaine 2024, chaque dimanche, reportage, analyse avec les correspondants de France 24 et RFI sur CUT 89,5 FM, la radio au cœur des débats politiques, linguistiques et culturels.
L'heure maintenant de l'invité au cœur de l'info week-end aux États-Unis ce week-end et celui précédant le Labor Day, la fête du travail, week-end de 3 jours qui en année présidentielle est également le symbole du début de la dernière ligne droite avant le scrutin. L'un des temps forts de cette rentrée aux États-Unis, ce sera évidemment le débat du 10 septembre entre les rivaux pour la présidentielle, Kamala Harris et Donald Trump. Et pour l'heure, tout reste ouvert. L'élection peut basculer dans un camp comme dans l'autre. On en parle ce soir avec Pierre Bourgois, maître de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, spécialiste des États-Unis et auteur du néoconservatisme américain, La démocratie pour étendard. Bonsoir Pierre Bourgois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24. Alors je crois que vous avez passé une bonne partie de l'été aux États-Unis, en Californie notamment, mais aussi dans des États beaucoup plus conservateurs. Tout d'abord, quelle est l'atmosphère sur place? Est-ce que la campagne électorale intéresse?
Oui et non, c'est-à-dire que tout dépend des états dans lesquels vous vous situez. C'est assez intéressant de regarder la différence justement entre un état comme la Californie, très très progressiste, évidemment ça dépend où vous allez, mais d'une manière générale très progressiste, et des états plus conservateurs comme l'Utah, le Nevada, même si le Nevada est passé démocrate. C'est intéressant parce qu'on se rend compte que, notamment quand vous parlez à la jeunesse est, semble-t-il, un peu distante de l'élection en Californie. Elle l'est moins, justement, dans les états un peu plus marqués conservateurs, notamment dans l'Utah, où moi-même j'ai eu des conversations assez marquées. Ce que j'ai eu plus de mal à avoir en Californie, comme si finalement on avait du mal à rentrer dans cette élection. Je pense que le débat, l'opposition entre Trump et Biden avait du mal aussi à catalyser les foules, je pense. Et c'est vrai que le fait que Kamala Harris ait remplacé donc Biden crée un nouvel élan. Et je pense que, en tout cas, dans les prochaines semaines, en Californie notamment, on va commencer à voir cet élan-là.
Et votre regard justement sur cette Kamala Harris mania, hein, comme on dit, cette euphorie autour de cette candidature après le retrait de Joe Biden?
On peut voir des similitudes avec l'effet Obama qu'on avait donc en 2008. Alors l'enjeu c'est de voir si Kamala Harris va pouvoir surfer sur cette vague. Pour l'instant, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, pour l'instant, il se trouve que cette vague est relativement formelle. C'est-à-dire que sur le fond, il y a très peu d'éléments pour l'instant concrets sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, elle finalement, elle joue de cette vague. En effet, vous l'avez dit, parce qu'elle est jeune. Maintenant, c'est Donald Trump qui apparaît comme le candidat le plus âgé et bien plus âgé de la campagne. Et finalement, tous les arguments que lui-même utilisait contre Joe Biden se retournent contre lui. Donc Kamala Harris surfe sur cette vague, mais pour l'instant, on peut dire qu'il manque de substance, et je pense qu'on va en reparler.
En tout cas, la convention démocrate qui s'est déroulée du 19 au 22 août, on peut parler de véritable réussite
pour elle. Oui, c'est une réussite. Clairement, elle a réussi ce qui était loin d'être gagné. Moi, j'avais des doutes, je me rappelle, il y a encore 2 mois, sur le fait que si Joe Biden se retirait, est-ce que Kamala Harris, ou la personne qui allait remplacer Joe Biden, allait pouvoir rassembler un parti qui commençait un petit peu à se diviser sur Joe Biden. Et là, c'est vrai que c'est une grande réussite. Cette convention a été, sur la forme, un véritable show. On a eu tout l'establishment démocrate, donc de Bill Clinton, Barack Obama, Hillary Clinton, on a eu des célébrités, même Oprah Winfrey notamment. Clairement, sur la forme, ça a été un véritable succès. Mais j'en reviens toujours à la même chose. Sur le fond, qu'est-ce qu'on en tire ? On en tire beaucoup de platitudes, des remarques très superficielles sur « il faut sauver l'Amérique ». On n'a finalement fait que attaquer Donald Trump. Très peu d'éléments programmatiques. Et surtout, ce qui est assez frappant, c'est que Kamala Harris est au pouvoir. Elle est vice-présidente. Et très peu d'éléments justement sur ce bilan, hein, une sorte de retour en arrière sur ces 4 années qui n'ont pas été toujours parfaites. Finalement, rien. Tout est axé sur l'opposition à Donald Trump, sur le fait qu'il faut sauver la démocratie. Des remarques très générales, mais finalement, on est resté un peu sur notre faim, en fait.
Son équipe de campagne dit avoir levé 500 millions de dollars de fonds. C'est beaucoup plus que du côté de Trump.
Oui, en fait, il y a un petit combat aussi au niveau des chiffres sur ce plan-là. En fait, tout dépend de la période dans laquelle on se situe. Donald Trump, justement, a mis en avant le fait qu'après la convention républicaine, lui aussi avait amassé beaucoup de fonds. Je pense que c'est un élément évidemment très important quand on connaît le fonctionnement de la démocratie américaine, mais un élément finalement qui va maintenant apparaître secondaire dans les 2 derniers mois. Je pense que les 2 derniers mois, il va y avoir, j'espère, une confrontation idéologique, et c'est là-dessus qu'il faudra aller attirer les électeurs. Encore indécis, il en reste beaucoup aux États-Unis. On parle souvent de ces électeurs modérés, républicains ou démocrates modérés. Je pense que la force de Kamala Harris jusqu'à présent, c'est qu'elle arrive, en tout cas peut-être mieux que Joe Biden. Alors c'est peut-être paradoxal puisqu'elle est considérée comme plus progressiste que Joe Biden, mais elle arrive davantage à aller capter ces électeurs modérés qui commençaient un petit peu à se détourner, certains avaient d'ailleurs été voir Robert Kennedy hein, finalement.
Qui s'est donc depuis désisté en faveur de Donald Trump.
Il s'est désisté. Je suis pas sûr que ça soit uniquement positif pour Donald Trump. Je pense qu'en fait l'électorat de Robert Kennedy est assez difficilement palpable. Voilà, donc je pense que la force de Kamala Harris, pour l'instant, c'est qu'elle arrive à rassurer tous ses électeurs démocrates plutôt modérés, et je dirais même certains républicains modérés. On a vu qu'elle a mis en scène, notamment lors de la convention de Chicago, certains déçus de Donald Trump. Elle a même ouvertement, dans son interview à CNN, mis en avant le fait qu'elle serait capable, ça nous fait penser un petit peu au gouvernement d'ouverture qu'on avait eu sous Nicolas Sarkozy, capable de nommer un républicain au sein de son administration. On verra, mais en tout cas, elle surfe sur cette vague pour essayer de ramener dans le camp démocrate ces électeurs qui étaient un petit peu dubitatifs.
Il y a une euphorie indéniable autour d'elle, pour autant rien n'est gagné. Alors très attendu évidemment, hein, je le disais en préambule, le débat du 10 septembre qui doit se dérouler théoriquement sur la chaîne ABC. Je dis théoriquement parce que Donald Trump a laissé supposer qu'il pourrait finalement ne pas être là, c'est ça ?
Oui, bon, pour l'instant on ne sait pas. Je pense qu'il aura lieu, évidemment, mais j'ai pas de boule de cristal sur ce plan-là. En tout cas, ce débat du 10 septembre est très important. J'évoquais tout à l'heure l'année 2016, qui avait vu en effet Hillary Clinton s'opposer à Donald Trump.
Alors justement, oui. Pardonnez-moi de vous couper à ce sujet, vous avez voulu revisionner une archive justement de ce débat de 2016 qui a opposé Donald Trump à Hillary Clinton. On va visionner donc cette image d'archive et on se retrouve tout de suite après.
If I win, I am going to instruct my attorney general to get a special prosecutor to look into your situation, because there has never been so many lies, so much deception.
It is, it's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country.
Because you'd be in jail.
Secretary Clinton.
Voilà, vous seriez en prison. Pourquoi avoir pensé à cette séquence dans le cadre de notre conversation du jour?
Parce qu'à l'époque, justement, Donald Trump était vraiment loin d'être favori dans les sondages. Il s'était révélé déjà lors des primaires républicaines, notamment face au candidat Bush. Et c'est vrai que lors de ce débat-là, on a vu une agressivité qu'on avait peut-être rarement vue, jamais vue même, on peut le dire, lors d'un débat pour la présidentielle américaine. Et j'ai voulu mettre cette vidéo parce que ce débat-là est extrêmement important pour les deux candidats, mais je dirais même peut-être plus pour Kamala Harris. Kamala Harris va être évidemment attaquée sur son bilan, et c'est ce que Donald Trump va essayer de faire. Je pense que Donald Trump, en tout cas, c'est une prédiction, on va essayer d'être peut-être moins agressif, essayer de surprendre en étant lui aussi rassembleur, et va essayer d'attaquer sur le fond. Et j'ai voulu mettre cette vidéo pour justement souligner l'importance de ce débat-là. Ce débat va obliger Kamala Harris à se dévoiler sur le fond, ce qu'elle semble ne pas aimer faire. En tout cas, jusqu'à présent, c'est ce qu'elle donne.
Donald Trump non plus en même temps.
Donald Trump non plus, mais Donald Trump est dans une position confortable, puisque pour l'instant, il n'a pas de bilan direct à défendre. Il a un bilan plus lointain. Et Donald Trump est dans la même rhétorique qu'il est entraîné, si vous voulez. Il a la même rhétorique depuis des années. Il y a très peu de surprises à attendre de Donald Trump. Il va attaquer fort, alors je dis sur le fond, mais aussi sur la forme. Il va évidemment probablement attaquer personnellement Kamala Harris. On a évidemment cette déclaration sur le fait que Kamala Harris avait en fait utilisé ses origines noires à des fins électorales, etc. Ce que Kamala Harris d'ailleurs a...
Ce qu'elle ne fait pas.
Elle ne fait pas, et en plus elle a botté en touche, elle n'a pas voulu rentrer dans ce jeu-là. Donc je pense que Kamala Harris va essayer de rester plutôt, comme vous l'avez dit, rassembleuse, ne pas rentrer dans cette confrontation directe, mais elle va être obligée de se dévoiler sur le fond.
Merci beaucoup Pierre Bourgois d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est donc la fin de cette entretien à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24. Au cœur de l'info week-end se poursuit dans quelques minutes.
Et oui, merci à nos collègues à France 24 pour ce reportage. Question de vous mettre un peu dans le bain de ce grand débat du siècle. Mardi prochain, 10 septembre à 20h, sur la chaîne ABC. Les audiences télé vont exploser mardi prochain. Et oui, les candidats démocrates et républicains à l'élection présidentielle aux États-Unis, Kamala Harris et Donald Trump, vont s'affronter lors d'une joute oratoire. Le débat sera animé par les chefs d'antenne David Muir et Lindsay Davis. Le dernier débat entre les candidats présidentiels remonte au 27 juin, alors que Donald Trump faisait face au président américain actuel Joe Biden. Mais après la piètre performance de ce dernier, plusieurs démocrates l'ont exhorté à quitter la course. Allez! Vous êtes trop âgé. Eh oui, ce qu'il a finalement accepté de faire le 21 juillet, laissant ainsi la place à sa vice-présidente Kamala Harris. Et je viens d'apprendre que le débat sera aussi en direct sur RDI, Radio-Canada, dès 20h, animé par Patrice Roy. Un merci spécial à tous nos amis Festival Francophonie en Fête. J'espère vous voir nombreux le 13, 14 et 15. Allez, tous les détails sur le site de Francophonie en Fête ou popourichaud.com. Et je félicite tous les gagnants des billets de TIFF, le Festival International de Films de Toronto, qui bat son plein. Vous avez vu le nombre de personnes qui défilent à Toronto en ce moment. Et oui, plusieurs films en français sont à l'affiche. Veuillez vérifier notre site et découvrir nos coups de cœur. Et n'oubliez pas que Marceline, la fondatrice de Ciné Franco, prépare en coulisses, en secret, les derniers films, la programmation de 2024 qui démarre le 1er novembre. Et nous avons des billets pour nos membres. Ciné Franco vous attend en grand nombre à son festival grand public au mois de novembre. Merci au CREFO et j'espère vous voir nombreux le 11 septembre. Tous les détails de cette conférence sur notre site popourichaud.com. Sophie Franc qui nous invite à son assemblée générale annuelle le 22 septembre Niagara, et c'est en ligne, donc pas d'excuses pour ne pas y être, soit en ligne ou en salle. Sophie Franc le 22 septembre, assemblée générale annuelle. Tous les détails sur notre site. Et un merci spécial à Didier Devora et les techniciens de Art House pour leur patience, leur générosité. Et merci mille fois Merci spécial à nos amis créoles de Montréal. Merci en pile à la belle équipe de Kepka qui nous donne rendez-vous aux célébrations du mois du créole à découvrir sur popourusho.com ou le site du Kepka. Ils sont sur Facebook et ils nous envoient des mises à jour. Le programme n'est pas complet encore, si je m'abuse, mais nous aurons les grandes lignes de cette programmation spéciale, 23e édition, le 29 septembre, si tout va bien. Littérature, cinéma, danse, musique, des contes et bien d'autres surprises à découvrir sur notre antenne tout au long du mois d'octobre. C'est le mois du créole. Et justement, je vous laisse avec un artiste haïtien qui connaît un vrai succès au Canada et en France. Vendredi 4 octobre, il vous donne rendez-vous à 19h30 si vous habitez dans la région de Montréal. Même si vous êtes à Toronto, pourquoi ne pas aller faire une petite balade? Peut-être pas par Via Rail. Vous avez vu ce qui s'est passé avec un train coincé pendant 10 heures d'attente dans le noir, le vide. Wesley et son Ben, son orchestre, vous invite à un concert spécial. Eh oui, c'est au boulevard Roland, Montréal-Nord. Musique, racine, afrobeat et hip-hop. Et c'est gratuit, c'est gratis. Allez, madame, monsieur, donc un monsieur à surveiller. Je l'aime bien, il fait des choses superbes. Et surtout, il milite pour des bonnes causes. Wesley et son band. Vous pouvez avoir tous les renseignements au 514-750-8800. Pour les billets ou des informations, ou encore kepka@videotron.ca. Tous les détails sur popourusho.com. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, voici Wesley en concert. Bon dimanche, bonne semaine et que la force soit avec vous. French is fun, comme disent si bien nos étudiants. Ciao!
Nako, let me so bad.